CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, on finit cette semaine en beauté. Qu'as-tu perdu en suivant Jésus ? Et beaucoup d'entre vous, vous dites « Moi, je n'ai rien perdu, j'ai tout gagné yes. !» Alléluia !
Moi, j'ai perdu ma honte, la condamnation, les chaînes qui me tenaient liées.
Et on a gagné le contraire, la gloire, voilà. La liberté.
Donc, j'ai perdu des choses.
T'as perdu des choses, mais celle-là, c'est bon, on peut les laisser derrière.
Ouais, ben, c'est ça, ouais.
Non, mais pour certains, ça a coûté de suivre Jésus. On renonce à certaines choses, on renonce à notre vie. Et puis parfois même, il y a des personnes qu'on aimait beaucoup à qui on doit renoncer ou qui carrément nous rejettent. Et en tout cas, ça a été un peu le cas de Esther Cincola. Elle était avec nous cette semaine et aujourd'hui, elle nous raconte son témoignage. Vous allez voir comment elle a dû résister à sa famille lorsqu'elle a connu le Seigneur, dans quel climat elle a dû évoluer dans sa foi. Et vous allez voir que ça n'a pas forcément été très facile. Donc son témoignage sera en milieu d'émission. Mais pour l'instant, on va commencer avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour.
Plusieurs personnes, alors que vous avez choisi Jésus, vous avez perdu des choses. Peut-être au travail, on vous a rejeté, votre famille vous a peut-être laissé tomber, vos amis, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager et j'aimerais aussi avertir toutes les personnes qui hésitent encore en vous partageant trois points. Le premier point, c'est ne soyez pas triste et ne soyez pas surpris d'être rejeté parce que vous avez choisi Jésus. La Bible nous dit dans Jean 1 que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, c'est normal de déranger lorsqu'on a choisi Jésus, en fait, et c'est normal de vivre même des persécutions. Et c'est bon signe, en fait. Si tu ne brilles pas, ça veut dire que tu te conformes au monde. Et si tu te conformes au monde, tu es pareil aux autres. Mais quand la lumière de Jésus-Christ rentre dans ta vie, tu commences à briller. C'est normal que tu ne supportes plus qu'on dise des choses qui ne sont pas bonnes. Et ça, les gens, ils le voient. Les gens qui le font, le voient et tu commences à déranger. Donc, c'est bon signe si là où vous êtes, on vous rejette parce que vous avez choisi Jésus, que ce ne soit pas un sujet de tristesse pour vous. Au contraire, voyez ça comme quelque chose de bon. Ça veut dire que vous êtes une lumière et que cette lumière est en train de briller et d'éclairer. Et on sait que le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas vous cacher. Vous ne faites pas exprès, en fait. C'est parce que vous avez accepté Jésus. La lumière de Christ s'est attachée à votre vie. La deuxième chose aussi que je vais vous partager, c'est que perdre est un principe biblique, en fait. Si tu refuses de renoncer à ta vie ou à toi-même, tu ne pourras pas gagner de plus grandes choses. Derrière les pertes que vous vivez aujourd'hui, il se cache de plus grandes choses, en fait. Lorsqu'on voit l'épisode de l'homme riche dans la Bible avec Jésus, il faisait déjà beaucoup de bonnes choses. Il a dit à Jésus qu'il appliquait des commandements. Et là, Jésus lui a dit, « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et il a été Christ, il ne l'a pas fait. En fait, cette personne s'est empêchée, il s'est privé de marcher directement avec Jésus-Christ. Quel honneur et quel privilège de marcher avec Jésus, parce qu'il considérait ses richesses. Elles étaient importantes à leurs yeux. Dieu en réserve tellement de choses. Quand Jésus nous appelle à lui, ce n'est pas pour qu'on souffre, en fait. Ce n'est pas pour que, voilà, tu laisses une chose et après tu vis dans la misère, tu galères. Non, quand Jésus nous appelle à lui, c'est parce qu'il a des choses meilleures en réserve pour nous. Il a dit dans Matthieu 19, quand Pierre lui a dit, « Mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus a répondu à Pierre, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Quoi de mieux que la vie éternelle? J'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant, peu importe ce par quoi vous passez, peu importe ce que vous subissez, Dieu a un plan pour vous. Et j'aimerais également avertir certaines personnes qui hésitent encore à prendre ce pas, parce que c'est difficile. Moi-même, pendant longtemps, à cause de mes amis, j'ai hésité à suivre Dieu jusqu'à ce que je me sente, jusqu'à ce que je devienne radicale, on va dire ça comme ça, où j'ai vraiment choisi le Seigneur. J'aimerais vous dire, faites attention aux choses qui prennent trop de place dans votre vie, parce qu'au moment de choisir Jésus-Christ, elles vous seront demandées et il faudra être capable de donner ces choses-là. Et on voit comment, par exemple, même Abraham a dû donner Isaac à Dieu, vraiment. Alors qu'il a libéré Isaac, Dieu est venu, l'ange de l'Éternel, c'est dans Genèse 22, on voit ça, dit, il appela une seconde fois Abraham et il dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, donc parce qu'il a accepté de donner Isaac, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc Abraham, il a donné un fils, mais il a récolté des nations. Et c'est le partage de toutes les personnes qui décident de perdre des choses pour suivre Jésus-Christ.
C'est tellement vrai, Aurélie. Amen. Merci. C'est pas, ça coûte en fait de suivre Jésus. Ça coûte, ça rapporte beaucoup plus. Et dans le verset que tu l'as lu, on l'a vu et c'est notre verset du jour. On peut d'ailleurs le regarder tout de suite. Aurélie l'a lu, hein, Luc 18 au verset 29 et 30. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Alléluia. C'est tellement merveilleux de voir que en fait on renonce à certaines choses. On a l'impression qu'on perd tout dans certains cas, mais en fait, Jésus nous fait cette promesse, non seulement on va recevoir beaucoup plus sur cette terre, mais dans la vie éternelle aussi. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine. Moi personnellement, quand je suis venue au Seigneur à l'âge à peu près de 18 ans, juste 2 semaines, je pense, avant que je mette les pieds pour la première fois dans une église évangélique. Mes amies, j'étais en soirée avec elles, c'était mes amies, il y avait ma meilleure amie dans l'équipe, on était plusieurs filles, un groupe de copines, on mangeait ensemble souvent et on passait beaucoup de temps ensemble, on était des amies de longue date. Un soir, on est ensemble et puis là, en fait, elles me disent qu'elles ne veulent plus de cette amitié avec moi, on devait partir en vacances ensemble, elles me disent « on ne veut plus, t'as changé ». On ne veut plus être avec toi. Et en fait, elles m'ont vraiment mise à part de leur groupe. Et je me souviens très bien avoir été très choquée, mais pas attristée. Et j'avais trouvé ça bizarre. J'avais dit, ça, c'est bizarre, ça me fait pas plus de peine que ça. Et 2 semaines plus tard, j'allais à l'église et je ressentais pour la première fois de ma vie la présence de Dieu. Et j'ai su que Dieu avait orchestré, en fait, ces amis qui m'ont quittée pour que je sois capable de le suivre. Parce qu'après ça, j'avais un petit copain encore dans ma vie avec qui on était depuis 4 ans et demi à ce moment-là, à qui j'ai dû renoncer aussi pour suivre le Seigneur parce qu'il ne m'a pas laissé le choix. J'ai dû prendre cette décision et j'ai compris que si j'avais dû renoncer volontairement à mes amis plus à mon petit copain de l'époque, je n'aurais pas été assez forte, je serais retournée dans le monde. Donc Dieu a su faire le ménage et il m'a donné des amis encore plus formidables que ce que j'avais avant. Il m'a donné un mari, il m'a donné des enfants, il m'a déjà béni bien au-delà que ce que j'ai renoncé.
Ouais, tu vois, Jésus le dit et il ne faut pas être choqué de ça. C'est dans Jean chapitre 15, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Ça, c'est tellement fort. Il faut comprendre ça et se le rappeler. Si le monde aimerait ce qui est à lui, si on était du monde. Et après ça, il dit « Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ben, moi, je crois que... j'ai donné ma vie au Seigneur, mais ce ne serait pas normal que les gens ne m'aiment plus. » Jésus le dit. En fait, du moment où est-ce que tu commences à témoigner ou à apporter ou même à démontrer les principes bibliques, il y en a qui ne seront pas capables. Ça va les dépasser, ça va les énerver. Parce que premièrement, eux, ils vont se sentir mal par rapport à peut-être comment ils vivent personnellement. Et Jésus le dit, si on est et on le suit, les personnes, tôt ou tard, il va y avoir des frictions. Ça va arriver. On regarde dans l'histoire de l'humanité, même dans le temps de Jésus, il y avait des gens qui détestaient Jésus, alors qu'il était totalement aimable et qui guérissait et qui faisait du bien. Et tu te dis, mais pourquoi il haïssait Jésus? C'est parce qu'il allait contraire au système de pensée, à la façon d'agir, à la façon d'être qui est installée dans le monde actuellement.
Ouais.
Donc, on ne peut pas être surpris si tu suis Jésus et toi, tu vis une transformation et il y a des personnes qui ne te comprennent pas. Il ne faut pas aller et condamner et battre tout le monde sur le dessus de la tête et dire « toi, t'es... » Non, non, mais juste, il y en a parfois, le simple fait que tu suis Jésus comme tu l'as vécu, Evelyne, ils ne seront pas capables.
Non.
Et ça, Jésus nous l'a dit. Donc, il ne faut pas être surpris que ça arrive. Ça va arriver et ça va encore arriver jusqu'à la fin des temps. Mm-hmm. Il y en a qui ne seront pas capables.
Tout à fait. Ce que tu dis est important, Frank. Il faut être sage dans le sens que on brille pas parce qu'on a fait même quelque chose. Hein. C'est que le Saint-Esprit en toi produit des œuvres qui font que quand quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur, la personne peut même se sentir jugée, oui. Alors que c'est même pas toi, en fait.
C'est ça.
C'est juste que ta lumière brille naturellement parce que tu es connecté à la source qui est Jésus-Christ. Et par contre, il faut être sage parce que, comme tu dis, il y a des gens qui vont peut-être perdre leur travail par manque de sagesse, qui sont chrétiens parce qu'ils condamnent, ils jugent et tout. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler des personnes qui ont accepté le Seigneur et parce qu'elles ont accepté le Seigneur, elles ont marché dans la simplicité, dans l'humilité, mais les gens autour d'elles n'ont pas supporté cette lumière-là et elles se sont retrouvées en train d'être condamnées. Vraiment, si vous avez perdu un travail, vous avez perdu des amis parce que vous avez accepté le Seigneur, c'est sûr, comme on a lu notre verset du jour, Dieu a en réserve tellement de choses pour vous, en fait. Et on ne le dit pas juste comme ça. Frank disait au début de l'émission que, voilà, il a perdu la honte et tout. Quand on met dans la balance, vraiment, ce qui a quitté ta vie et ce qui est venu quand tu as accepté Jésus-Christ, il n'y a pas match, comme on dit chez nous. Ça ne fait pas le poids, en fait. Ouais. Donc, ne vous attristez pas de ce que des gens vous ont laissé. Même les parents. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu des défis avec mes parents.
Oui.
Et la seule chose que... C'est un conseil extraordinaire qu'on m'avait donné. On a dit, toi, reste dans ton couloir, donc dans la parole de Dieu, honore tes parents. Oui. C'est tout ce qu'on m'avait dit. Et alors que mes parents, parfois, ils n'étaient pas très contents, ben là, je leur disais, oui, je vous comprends, c'est parce que vous pensez que j'ai fait une erreur et tout. Mais non, je n'ai pas fait d'erreur.
Tu les rassurais, en fait.
C'est ça, ça a complètement changé mon approche avec eux, alors qu'au début, j'étais dans la guerre.
Ouais.
Mais là, parce qu'on m'a dit, non, toi, reste comme un enfant de Dieu doit être, honore. Mais ça a vraiment changé. Et aujourd'hui, on s'entend super bien, tout va bien. Donc, c'est important de dire que peut-être des gens ne vont pas comprendre, mais tôt ou tard, le Seigneur va faire en sorte que ces personnes, peut-être c'est vous qui les amènerez au Seigneur par la suite, parce que vous avez gardé la bonne attitude, en fait.
Et en fait, Jésus, il n'est pas venu, comment je peux le dire? Il savait qu'en enseignant ce qu'il allait enseigner, il ne venait pas apporter la paix, entre guillemets, dans le monde entier. Il savait que ça allait
dit,
choquer.
Hein? Il a dit, je ne suis pas mieux amener la paix, mais oui, l'épée.
Voilà. Ça allait trancher.
Oui.
Et Jésus, les gens, quand ils l'écoutaient, il n'allait pas continuer à leur dire, ah, c'est beau, qu'est-ce que vous faites? Continuez à vivre comme vous vivez, c'est génial, c'est parfait. Non, non, il apportait une nouvelle façon de vivre. Et ça challengeait tout le monde. C'était tellement fort, et même qu'il est allé au point où est-ce qu'il s'est fait dire, ton père, ta mère, tes frères, etc. Il dit, qui sont mes frères? Qui sont ceux qui sont vraiment ma famille? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui marchent. Et même pour ceux qui ont perdu parfois leur famille, et je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas dans cette situation-là, mais Jésus a dit qu'on a quand même, on a une famille spirituelle qui est réellement ceux qui tu vois, il a dit, mes frères sont ceux qui sont là, qui font la volonté de Dieu.
Tout à fait.
Et ça dépasse la compréhension naturelle, notre petite boîte de cerveau qui met toutes les choses comme ça. Mais voilà, il y en a qui disent, vraiment, c'est la volonté de Dieu, Frank, vraiment que des familles soient... Il a dit que ça allait arriver, je suis désolé. C'est pas que c'est agréable, c'est pas qu'il y a rien de plaisant là-dedans. Mais il a dit que dans certains cas, ça allait arriver. Le fait de le suivre allait apporter des divisions parfois.
Ouais.
Mais nous, ce qu'on a à faire, c'est de le suivre de tout notre cœur.
Voilà. Exact, exact. Et ça a été le cas de notre sœur Esther Cincola. Je vous laisse découvrir tout de suite son témoignage. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Esther Cincola. Bonjour Esther.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien.
Ça va bien.
Ouais.
Vous êtes l'épouse du pasteur Thierry Cincola. Mm-hmm. Vous avez une très belle église à Montréal, au Québec. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter l'histoire de votre conversion et dans un contexte familial qui n'était pas forcément des plus faciles pour une chrétienne.
Ouais.
Donc, vous êtes née au Congo, RDC. Dans une famille qui n'était pas chrétienne, donc vous n'avez pas du tout connu le Seigneur lorsque vous étiez enfant.
Non, je n'ai pas connu le Seigneur en grandissant, même pas l'Église catholique. On était vraiment non-chrétiens. Mm-hmm. En fait, on n'entendait pas parler de Jésus. On vivait tout sauf la vie chrétienne. Fait qu'on a grandi comme ça. C'est juste dans l'adolescence, en allant à l'école, qu'on a commencé à apprendre qu'il y avait un Jésus, Noël, toutes ces choses-là, qu'on a commencé à découvrir, que j'ai commencé à découvrir. Et puis, un peu plus loin, on a entendu parler de Christ, il y avait des églises, il y avait un mouvement de réveil au Congo, fait que c'est par là que vraiment j'ai commencé à entendre parler de Christ et que je l'ai reçu à un moment donné.
C'est ça, à ce moment-là, vous aviez 17 ans, donc fin de l'adolescence.
Oui.
Et comment ça se passe, cette rencontre avec Jésus ?
Plutôt bien, c'était bien pour moi parce que j'avais toujours senti un vide en moi en fait. Je sentais toujours un vide en moi. C'est comme si j'avais un besoin profond de quelque chose d'autre. J'ai grandi dans une bonne famille, si je dois dire. Mon père nous avait tout donné, une belle vie, les voyages, des bonnes écoles, tout. Il y avait tout. On ne manquait de rien. On vivait très bien, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et lorsque j'ai entendu parler de Christ, je l'ai reçu. J'ai compris qu'à travers Christ, je pouvais recevoir cette paix ou cette joie, cette chose que je manquais, que je n'avais pas. C'est comme ça que j'ai rencontré Christ. C'était bien pour moi, mais ça n'a pas été aussi facile que ça, parce que comme on vient de le dire, je suis née dans une famille non chrétienne. Mm-hmm. Vraiment, quand je dis non chrétienne, personne n'allait à l'église, on ne connaissait pas les choses de Dieu, comme on dit. Et dans tout ça, mon père, il n'était pas seulement non chrétien, mais il ne croyait pas. Mm-hmm. Il ne croyait pas
en Dieu. Il était vraiment fermé.
Il était fermé. Mm-hmm. Il était fermé par rapport au christianisme. Et parce qu'il avait ses croyances à lui.
C'est ça.
Donc, il avait son église où il allait. C'était, je dirais, une secte basée un peu sur les traditions. Une secte où il y avait... c'était un homme qui était comme leur Dieu. Fait que lui croyait, il avait son Dieu. Il y avait déjà un Dieu dans la famille. Voilà. Il y avait déjà un Dieu à la maison. Fait qu'il était fermé à toute autre chose, surtout au christianisme, parce que voilà, il n'y croyait pas et il ne voulait pas. Et moi, j'étais enfant, lui, c'était le père, fait que moi, j'ai reçu Jésus-Christ et c'est comme si j'emmenais un autre Dieu dans la famille ou dans la maison.
Exact.
Donc, c'était vraiment pas facile pour moi parce que il voulait pas du christianisme, il voulait pas, on pouvait pas rentrer la Bible chez nous. On ne voyait jamais la Bible chez nous. On ne pouvait pas écouter la musique chrétienne chez nous. On ne pouvait pas faire venir des serviteurs de Dieu. Et dès qu'il comprenait que quelqu'un était chrétien, c'était déjà un problème. Il fallait qu'il quitte les lieux, il fallait qu'il parte. Fait que c'était interdit. Mmh. Et c'est là que moi, j'ai reçu Christ et j'étais vraiment adolescente.
Oui.
Fait que je ne pesais pas. Je ne pesais pas.
Non, voilà, là, vous avez vécu finalement une vie chrétienne dans la clandestinité.
Oui.
Votre maman était chrétienne
Ma
aussi.
Ma mère s'est convertie, oui, elle s'est convertie. Elle avait quitté la secte. Mm-hmm. Elle s'est convertie, elle s'est donnée à Christ, mais c'était pas facile pour elle. Elle communiquait tout le temps avec son mari, fait que si elle va à l'église ou quoi, il saurait. Donc, elle priait à la maison. Et moi, c'est après quelques années que j'ai reçu le Seigneur. Donc, pour elle, c'était difficile. Donc, pour moi aussi, c'était plus difficile que ça. Donc, je me cachais. Mm-hmm. Je me suis cachée pendant longtemps. Je dirais pendant à peu près 11 ans.
Mm,
11 ans de vie chrétienne vraiment cachée. J'allais à l'église en me cachant. Il ne fallait pas qu'ils sachent. Quand je partais à l'église, j'emportais ma Bible, mais à mon retour, je devais chercher comment faire entrer la Bible dans la maison.
En cachette, en fait.
En cachette, en fait. Donc, soit je jetais ma Bible en arrière la clôture de la parcelle, je jetais ma Bible et je rentrais par devant, parce que souvent, il était dans le jardin et tout. C'était très compliqué pour moi. Et dans la maison, je n'avais pas cette liberté de prier. Mm-hmm. De prier, tu sais, quand on est chrétien, on chante le matin, on se réjouit, et puis on prie à haute voix. Merci Seigneur pour la vie. Merci. Moi, je ne pouvais pas.
Oui.
Moi, je me cachais pour prier et je chuchotais pour prier parce qu'il ne fallait pas qu'on m'entende, il ne fallait pas qu'on sache que je priais. Et j'ai vécu comme ça pendant toutes ces années. Et même, ça a eu un impact quand je me suis mariée, quand j'ai quitté la famille. Mm-hmm. Quand je suis chez moi, je prie toujours à voix basse.
C'est resté, en fait.
Oui, c'est resté. Et mon mari ne comprenait pas ça. Mais c'était juste les conséquences de cette vie.
11 ans de clandestinité.
Voilà, je me cachais pour lire la Bible. Je me cachais pour prier. Je priais à voix basse. On ne m'entendait pas. On ne me voyait pas prier. On ne savait jamais quand est-ce que je priais. Mais je menais ma vie chrétienne comme ça. Mais... Et j'allais à l'église difficilement. Tu sais, il y a beaucoup de programmes à l'église. Hein.
Oui.
Il y a des séminaires, il y a des nuits de prière. Toutes ces choses-là, je n'arrivais vraiment pas à jouir de tous ces programmes parce que c'était difficile. D'abord, j'étais jeune, j'étais enfant, surveillée à la maison.
Oui.
Et tu savais, tu avais envie, mais tu ne savais vraiment pas comment faire pour y aller, parce que quand tu revenais, on te demandait où tu étais. Mais je suis chrétienne, est-ce que je dois mentir
oui.
que j'étais... C'était, c'était vraiment difficile. C'était difficile et beaucoup d'anxiété,
mm-hmm.
parce qu'il y avait une peur. Il y avait une peur que papa le sache, qu'il réagisse et tout, mais après un temps, il a su.
C'est ça, au bout d'un moment, il a su ce qui c'est, que vous étiez chrétienne, mm-hmm. parce que vos frères l'ont su également.
Hein, oui, donc, la famille, les cousins, les oui. amis, les gens se parlent.
Et comment ça s'est passé quand il l'a su
quand
c'était
il a...
difficile.
Oui, c'était très difficile parce que là, maintenant, il y avait vraiment les yeux braqués sur moi.
Mm-hmm.
Quelques proches aussi. D'ailleurs, je me suis fait battre aussi à cause du fait que j'allais à l'église, parce qu'il y a un de mes proches qui voulait comme faire respecter, en fait, ce que la loi.
Oui, c'est ça.
Fait que, donc, j'ai vécu tout ça. Et c'était quand il a su, il fallait vraiment encore plus gérer, plus me cacher, plus faire semblant de pas être chrétienne, en
c'est
fait.
Ça.
Il fallait vraiment faire semblant. Et à plusieurs reprises, il m'a demandé de faire attention. Que, vous savez, hein, les papas, les
ben
parents,
oui.
fait qu'il y avait des conséquences. Si j'apprends, mmh. si ça.
Des menaces. Un
voilà,
peu,
c'était, mmh. C'était un peu comme ça que j'ai vécu. Beaucoup d'anxiété, ouais. Beaucoup de peur, de crainte. Je me demandais, est-ce que je vais y arriver? Déjà que j'étais jeune,
oui.
je pouvais faire ma vie comme tous les autres.
Est-ce que vous avez pensé à un moment donné renoncer à la foi, renoncer à l'Église? Ça aurait été plus simple pour votre vie, finalement?
Non, je n'ai pas pensé à ça tellement c'était bien. Tellement j'avais trouvé ce dont j'avais besoin. Ce qu'on ne pouvait pas me donner, ce que l'argent n'a pas pu me donner, ce que l'aisance ne m'a pas donné, fait que j'étais vraiment dedans. Je voulais absolument. Et à l'époque, il y avait une radio chrétienne. Donc, c'est un peu comme EMCI TV, mais à l'époque.
Oui.
Et cette radio aussi m'a beaucoup aidée parce que je l'écoutais cachée. Et puis, il y avait des hommes de Dieu qui prêchaient, qui parlaient de tout. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses, parce que c'était vraiment dans les débuts de ma foi chrétienne. Fait que j'écoutais les prédications, je comprenais les choses, j'évoluais comme ça. Et puis il y avait un oncle aussi dans la famille qui était chrétien. Okay. Fait qu'à travers lui aussi, je trouvais un peu de réconfort et tout. Donc je n'ai pas pensé... Je ne voulais pas renoncer.
C'était
je
pas
ne
une
voulais
option.
Pas. Non, voilà. Je ne voulais pas renoncer. D'ailleurs, j'ai servi le Seigneur pleinement,
mm-hmm.
pleinement.
Malgré tout ça,
malgré
en fait,
tout
ça ne vous a pas empêché de le servir.
Non,
de grandir dans votre relation avec
je
Dieu, dans
voulais,
votre foi.
Je voulais grandir. J'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. J'aimais servir Dieu. J'ai servi Dieu dans presque tous les départements à l'église, bien que je me cachais. Mais je voulais, j'ai évangélisé, j'ai été à l'écodim, j'ai fait l'intercession, la chorale, j'ai tout fait. Je voulais servir Dieu et je le servais pleinement avec beaucoup de questionnements. quand je vais finir le culte, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Mm-hmm. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va me mettre dehors? Comment ça va se passer? J'ai vécu comme ça, mais j'ai servi le Seigneur pleinement avec beaucoup de joie, beaucoup de crainte aussi.
Oui.
Mais c'était comme un sacrifice. C'était aussi, comment je peux dire, une préparation, si je dois dire, pour ce à quoi Dieu m'appelait.
Exact.
Parce que, oui, quand j'allais à l'église, c'est sûr qu'on me disait que Dieu t'appelle, Dieu va t'utiliser, tu vas le servir encore plus. Donc, ça aussi, ça me motivait, fait que j'avais vraiment confiance et puis j'évoluais comme ça. Wow. Donc,
une foi solide, en fait, qui s'est bâtie dans ces moments-là, parce qu'en fait, cette relation avec Dieu, il fallait vraiment le vouloir pour l'avoir.
Il fallait vraiment le vouloir.
Donc, ça a bâti des fondements solides que vous avez encore aujourd'hui, j'imagine.
Oui, oui, oui. Des fondements solides. N'oublions pas que j'étais beaucoup oppressée. J'étais beaucoup oppressée. Si vraiment on va comprendre le domaine spirituel, il y avait déjà un autre Dieu. Et moi, j'emmenais un autre Dieu. Ah, c'était vraiment sûr. Pas facile.
Il y avait un combat dans la maison, en fait,
voilà. Spirituelle. Même si on se disait rien, même si papa jouait son rôle de papa, moi de la fille, la relation était bien, mais spirituellement, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, beaucoup d'oppression, j'étais très fragile dans la santé. Il y avait la santé, il y avait tout ça. Je suis passée par des opérations. En fait, c'était il y avait un peu de tout. Mm-hmm. Il y avait un peu de tout.
C'était une période très difficile quand même.
Très 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 difficile. Et quand je me suis mariée, j'étais un tout petit peu libre, parce que j'étais plus grande, j'étais plus une enfant.
Oui.
J'ai grandi et puis je me suis mariée. Je pensais que c'était la délivrance finale, là, mm-hmm. mais après quelques temps encore, je devais attendre de rejoindre mon mari. 7 ans encore, fait c'est que
ça.
Je suis restée longtemps. Oui, je suis restée longtemps comme ça, mais j'ai persévéré. Mm-hmm. J'ai aimé Dieu, je l'ai servi. J'ai évolué avec lui, j'ai expérimenté la force, la puissance de Dieu. Mmh. Et voilà.
Gloire à Dieu, vraiment, ouais, vraiment. Ouais. Gloire à Dieu pour votre foi, pour votre persévérance. C'est inspirant pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, mais aussi pour tous ceux qui ont cette liberté et qui ne passent peut-être pas ce temps de qualité avec Dieu. Donc, merci beaucoup, Pasteur Esther, d'être venue nous encourager par votre beau témoignage.
Merci. Que Dieu vous bénisse.
Merci. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes reconnus dans l'histoire du pasteur Esther. Vous avez vu comment Dieu a agi et comment Dieu a préservé sa foi malgré tout. Et j'aimerais encourager quelqu'un en terminant cette émission. Vous avez entendu tout ce qui a été dit et vous vous dites... Moi, il y a des choses que je n'ai pas lâchées encore. Eh bien, c'est le moment de le faire. Vous avez des décisions à prendre. Alors, aujourd'hui même, vous pouvez prendre des décisions. Vous avez des relations peut-être que vous devez couper, des choses du monde que vous devez abandonner. Et vous savez, il y a un moment donné, ça doit lâcher d'un côté ou de l'autre. Mmh. Et le monde peut fortement gagner si votre cœur est encore attaché à ces choses ou à ces personnes. C'est des décisions à prendre, mais ayez cette assurance que peu importe le prix que vous allez payer pour suivre Jésus, le Seigneur non seulement le voit, mais il a fait cette promesse dans le verset qu'on a lu, que vous aurez votre récompense, non seulement sur cette terre, mais dans l'éternité.
Et Evelyne, oui? C'est à ce moment qu'on peut chanter « Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. »
On va se quitter là-dessus. «
Je suis décidé de suivre Jésus. »
Frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, le Saint-Esprit a saisi des hommes de Dieu, des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, David Yonggi-cho et tant d'autres qui ont prophétisé la même chose dans la même direction, que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit enverrait un mouvement, une vague de réveil qui toucherait toute la francophonie et cette vague partirait de la région du Canada. Là où je me tiens actuellement, au Québec, au Canada, devant le centre MCI en construction, je sens depuis plusieurs semaines l'Esprit de Dieu me pousser en prière et je viens régulièrement le soir ici et je prie de tout mon cœur pour que ces prophéties s'accomplissent. Et je crois humblement, frères et sœurs, que EMCI TV fait partie de ces structures, de ces organisations que Dieu va utiliser pour ce grand réveil qu'il a prophétisé dans la fin des temps. Et je suis encouragé, soyons encouragés pour nous tous qui nous levons, pour les 3500 héros qui se lèvent pour la construction du centre MCI, car je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers cette œuvre et à travers nous. Que Dieu vous bénisse encore.
Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.